Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Le Positif Morning jusqu'à 10h avec notre invité qui nous a rejoint comme prévu pour une heure encore jusqu'à la fin du Positif Morning, Jonathan Peter Schmidt. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors on va vous installer le micro parce que là, Sandrine, le micro il est en train de vers la table. Voilà, ça va. Allô, mieux.
C'est bon.
Oui, c'est
bon.
C'est mieux, voilà.
Vous êtes médecin généraliste et ce matin on va parler, Sandrine, d'une thématique qui va vous concerner, qui concerne tous les auditeurs, toutes les auditrices, puisque c'est la santé, la famille.
Oui, alors en effet ça concerne tout le monde et on va étudier finalement ce qu'on peut tous constater, c'est que la santé n'est plus seulement une absence de maladie ou d'infirmité. C'est pas juste ça, être en bonne santé, mais c'est aussi une aspiration collective et solidaire au mieux-être. On va aborder plein de choses. Et Jonathan Peter Schmidt, notre invité, est là pour répondre à toutes vos questions. Alors profitez-en, ça se passe ce matin sur Phare FM.
Plus 33 652 300 342 par SMS sur l'application WhatsApp ou sur le répondeur Phare FM.
Et bien on continue jusqu'à 10h avec notre invité, Jonathan Peter Schmidt, qui est médecin généraliste. Alors profitez-en, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un médecin comme ça là pendant une heure qui peut répondre à toutes vos questions. On parle santé, c'est pas un scoop, on va parler santé ce matin.
Et on va parler. On va parler de nouvelles technologies.
Oui, en fait, non, enfin s'il a envie, on peut aussi, mais non, on va rester dans le domaine de la santé. On va peut-être revenir un petit peu en arrière, Nathanaël.
Oui, on parlait de santé, on le disait en introduction, c'est vrai que la santé aujourd'hui, c'est complètement différent, j'allais dire que complètement différent qu'il y a un siècle. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur l'historique de la santé? Il y a un siècle, on mourait de maladies qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà, comment c'est passé cette évolution, docteur Peter Schmidt?
Oui, alors belle question, bonne question, ça pourrait nous faire rebondir sur les nouvelles technologies. Concrètement, la santé, l'historique de la santé, sincèrement, je pense que si on remonte dans le temps, on peut remonter à bien au-delà du siècle passé, puisque le problème de la santé, c'est un problème qui accompagne l'être humain depuis toujours. Et forcément, à partir du moment où quelqu'un n'a pas l'air d'être bien, ou finalement finit par mourir d'une cause qui ne semble pas naturelle à ses contemporains, se pose la question de qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation. Donc la santé, c'est quelque chose qui est vieux comme l'être humain, vieux comme la vie, j'ai envie de dire. Mais concrètement, aujourd'hui, la santé a beaucoup évolué. Je pense qu'on peut se dire que ça a évolué notamment grâce aux connaissances, puisque c'est vrai que si on remonte au fameux siècle en arrière, on se retrouve quand même à une époque où on ne connaissait pas beaucoup de pathologies qui sont actuellement bien maîtrisées. Et forcément, à l'époque, on les traitait de façon beaucoup plus empirique. On essayait de faire les choses et on voyait ce que ça donne. Aujourd'hui, encore une fois, on revient un peu plus vers la prévention, ce qui revient à dire qu'on connaît mieux les maladies, donc on peut les prévenir plutôt que de les guérir.
L'avancée aussi qu'il y a pu avoir depuis un siècle, c'est la facilité, l'accessibilité à un médecin, à un hôpital, peut-être aussi même si parfois c'est pas forcément à côté, mais il y a des véhicules, il permet de se déplacer vers des hôpitaux. Ça aussi, c'est une évolution depuis le siècle dernier.
Oui et non. Désolé. Ouais, je sais.
Ah ben c'est bien.
Je suis un peu rabat-joie. Non, parce que la question de l'accessibilité aux soins, je pense que selon les endroits où on se trouve aujourd'hui, la question peut se poser encore et toujours avec les voitures, internet et tout ce qu'il y a autour. Mais concrètement, même dans le passé, je pense que le tissu social était vraiment très différent. Et le médecin n'était pas forcément un médecin qui s'occupait d'une population qui était sur un très 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 grand rayon, bien entendu. Mais par contre, il était référent pour beaucoup de personnes qui étaient par exemple juste dans le même village ou juste dans la même petite région. Donc finalement, on avait quelque chose qui était de l'ordre plus du cœur à cœur, du corps à corps entre le praticien et finalement ses patients. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est un petit peu plus, beaucoup plus large finalement dans notre pratique de tous les jours. Mais on se rend compte aussi que cette pratique beaucoup plus large met parfois un petit peu de distance entre les gens et puis leurs médecins. Donc l'accessibilité rend plus facile effectivement le soin. Mais je crois que c'est pas qu'une question de distance, c'est aussi une question finalement d'économie, puisque la société s'est organisée, la fameuse sécurité sociale, CPAM aujourd'hui, qui a quand même fait beaucoup de bonnes choses dans notre pays, il faut pas l'oublier non plus.
On reviendra sur tous ces détails, on va suivre un petit peu cette évolution de la famille, de la santé, voir pourquoi c'est important aujourd'hui la santé tout au long de cette heure. Vos questions, vos réactions dès à présent.
Et qu'est-ce qui est important aujourd'hui finalement? Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. 0033 652 300 342, posez toutes vos questions. Aujourd'hui, on peut soigner de plus en plus de choses. On guérit peut-être de plus en plus de maladies. Est-ce qu'on est en meilleure santé qu'auparavant?
Grande question, belle question. Maintenant, je vais la préciser. Je me permets de remettre un petit peu le couvert sur qu'est-ce que c'est que la santé, finalement. Puisqu'être en bonne santé, c'est un bel objectif en soi, mais c'est quoi la santé? Donc, comment est-ce qu'on peut être en bonne santé? La bonne santé, la santé a été bien élargie. La définition, on en a parlé encore ce matin. Celle de l'OMS, notamment, nous ramène un petit peu à une définition beaucoup plus large. Notamment le fait que ce n'est pas que la question du corps. Bien sûr, on pense maladie, on pense santé, on pense tout de suite comment est-ce que je vais dans mon corps, est-ce que j'ai pas une hypertension, un diabète, est-ce que j'ai pas un problème de cancer, est-ce que j'ai pas un problème d'intolérance au gluten, etc. On reviendra sur certains de ces thèmes, je pense. Mais concrètement, faut essayer d'élargir, c'est-à-dire qu'on peut se dire que la santé, c'est bien sûr physique, mais aussi la question psychologique qui entre en jeu et qui aura un impact sur le physique, bien entendu. Le fait aussi d'être bien dans sa société, je suis bien au travail, je suis bien dans ma famille, je suis bien avec mes enfants. Le fait d'être bien dans son environnement, comment est-ce que je vis dans mon milieu, entre guillemets naturel, la ville, la campagne, où est-ce que je vis, est-ce que finalement ce que je respire, ce que je mange, ce que je fais, c'est quelque chose qui va aller dans le sens de la bonne santé ou au contraire me ramener vers une santé qui va se dégrader petit à petit. Donc à la question, est-ce qu'on est en meilleure santé? Je dirais que selon l'endroit qu'on choisit, selon est-ce qu'on parle du corps, j'aurais envie de dire, il suffit de regarder l'espérance de vie qui a grimpé au fur et à mesure des décennies qui nous ont précédés. On peut vivre plus longtemps, effectivement, mais je vais demander, est-ce qu'on vit plus heureux?
Oui.
Est-ce qu'on est mieux au travail? Est-ce qu'on est mieux dans un environnement qui est plus sain? Donc selon l'axe qu'on va choisir, je pense que oui, on vit en meilleure santé, on se soigne plus facilement au niveau des maladies, on peut anticiper certaines pathologies, mais la question se pose sur comment est-ce que la société nous impose certaines restrictions, hein, notamment le fait justement d'avoir des blocages au niveau du travail, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer facilement sur ses souffrances intérieures, etc. Tout ça mène vers un autre pan de la santé qui malheureusement, je crois, à notre époque, n'est pas au beau fixe.
Donc on parle de santé physique, santé psychique aussi.
Exactement.
C'est vrai qu'on parle de plus en plus de maladies, burn-out, bore-out ou des choses comme ça qui se développent de plus en plus. C'est des choses qui n'existaient pas le siècle dernier.
Disons que ça n'existait pas à ce niveau-là, puisque la société effectivement n'était pas du tout calibrée comme la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, la société est extrêmement centrée sur la rentabilité, forcément. Le but, c'est de faire du profit, le but, c'est finalement de gagner de l'argent pour pouvoir se payer le ou la maison qu'on avait choisie, la voiture, etc. Enfin, c'est vraiment une culture qui est différente, alors que si on remonte dans le temps, finalement, la micro-société, notamment la famille dont on parlera encore, était quelque chose qui était central, qui était très important dans la vie de l'individu, ce qui lui permettait finalement d'être moins égocentrique et finalement de moins souffrir de toutes ces problématiques. Donc la pression était moins grande de la société, l'entraide était plus importante. Donc sur la question psychologique et psychique, effectivement, il y avait des alternatives qu'on ne retrouve malheureusement plus beaucoup aujourd'hui.
Comment va la famille du côté de la santé? C'est notre thématique ce matin et vous pouvez vous poser vos questions dès à présent. Plus 33 652 300 342.
On prend aussi vos questions sur Facebook. Si vous êtes en ce moment en train de vous promener sur les réseaux sociaux, la question est posée en haut de la page, vous pouvez pas la rater. N'hésitez pas, toutes vos questions ce matin jusqu'à 10h. Alors on a envie de vous poser une question comme ça très très directe, docteur. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus en consultation?
Quand on est en famille,
c'est la question qu'on vous pose le plus souvent.
Les familles, quand elles viennent vous voir, c'est quoi la question qui revient?
Question de famille, question de santé, effectivement. La question se pose surtout et essentiellement par rapport aux jeunes parents, je dirais. Puisqu'effectivement, c'est eux qui vont se poser le plus de questions. Ils n'ont pas forcément le recul, l'expérience. Concrètement, c'est comment protéger mon enfant? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce que je lui donne à manger? Quand est-ce que je diversifie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les vaccins sont bons? Est-ce que les vaccins sont à éviter? Qu'est-ce que je peux faire? Dans quel type d'école? Est-ce qu'il faut que je le mette peut-être dans un environnement qui sera plus centré sur l'enfant plutôt que dans le groupe, etc. Donc c'est vraiment comment est-ce que je protège mon enfant de la société, comment est-ce que je lui donne à manger, comment est-ce que je le soigne. Donc c'est vraiment des questions qui sont très très orientées essentiellement sur la prévention. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très très prégnant dans les familles, surtout dans les familles avec de jeunes enfants.
Finalement, les gens veulent savoir en premier comment est-ce que je protège ma famille, comment est-ce que je protège mes enfants. Est-ce que on a l'impression que c'est très très anxieux finalement comme approche, non?
Oui, alors pour le coup, effectivement, l'inquiétude par rapport à l'évolution, la croissance, la santé des enfants est complètement légitime. Maintenant, oui, je pense qu'on est peut-être rentré, alors vous me direz, faudra demander à mes prédécesseurs qui ont exercé le siècle dernier, mais je pense qu'on est effectivement entré dans une ère où la prévention est très importante, mais parfois poussée à son paroxysme. Je m'explique, on est quand même dans une société où l'ambiance est relativement anxiogène. Vous avez accès à énormément d'informations très facilement. facilement. Internet, les médias, ne serait-ce que les informations à la radio, il faut choisir ça, une bonne radio. Mais concrètement, on peut se retrouver face justement à des informations qui vont créer en nous une angoisse, une anxiété, et qui vont faire justement pousser à la recherche de comment je me protège, comment je protège mes plus proches, notamment mes enfants. Et malheureusement, je crois que cette part d'anxiété qui est cultivée dans notre quotidien va amener parfois à certains excès où finalement, à force de vouloir trop protéger nos enfants, alors c'est mal dit parce qu'effectivement il n'y a pas de bonne façon de dire ça, mais trop protéger nos enfants nous amène à faire d'autres erreurs qui finalement les exposeront à d'autres problèmes.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on se pose trop de questions, mais j'ai quand même envie de dire qu'avec justement tout ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que c'est pas normal qu'on se pose toutes les questions qu'on se pose par rapport à la santé ?
Non, au contraire, je pense que dans la santé, effectivement, le débat est quelque chose de très sain, de très légitime, et heureusement qu'il y a du débat, et heureusement qu'il y a des questions qui se posent, puisque sinon on n'aurait pas évolué depuis le début de la médecine. Mais malheureusement, ce qui est problématique, c'est pas tellement les questions qu'on se pose, c'est les réponses qu'on va se donner. Et parfois des réponses qu'on va se donner sur des simples rumeurs, des réponses qu'on va se donner simplement sur des sentiments, ou alors simplement parce que je veux être dans la prévention maximale, bah, j'éviterai au maximum d'exposer mon enfant à telle ou telle chose, ce qui fera qu'au final on va l'exposer à d'autres. C'est toujours la même chose.
Alors en parlant de rumeurs, en parlant de protection, etc., je voudrais revenir sur les vaccins. On parle beaucoup de vaccins, les vaccins sont bons, les médecins nous disent qu'il faut absolument faire les vaccins. Du côté de la France, on est arrivé à 11 vaccins maintenant, hein, pour les enfants. Est-ce que là on est, qu'est-ce qui est de l'ordre de la rumeur, de l'ordre de la réalité concernant ces vaccins et cette accumulation de vaccins?
Alors voilà, je pense que là on est extrêmement précis dans ce qu'on vient de se dire, dans l'anxiété, dans tout ce qui sera justement de la rumeur, et forcément c'est à ce thème-là en particulier qu'on peut penser quand on parle de ça. La vaccination, vaste thème, et là aussi j'ai envie de dire, ce serait dommage d'avoir un avis tranché sans avoir de réflexion derrière, donc le débat est toujours important à avoir. Maintenant, malheureusement, là aussi, je pense que par principe et par principe de précaution poussée à l'extrême, on va avoir certaines personnes, certains parents notamment, qui vont avoir plutôt le souhait de faire le moins de vaccinations possible en se disant « Ok, si je ne vaccine pas mon enfant, au moins je ne vais pas l'exposer à telle molécule qui serait dans le vaccin, à tel adjuvant qui va potentiellement être toxique, etc. » Donc qui va se dire, et c'est assez légitime hein, dans la démarche, « Ok, je veux protéger mon enfant, donc je ne le vaccine pas. » Malheureusement, ça nous amène maintenant à une situation où nous, en tant que personnel soignant, on peut se rendre compte que certaines pathologies qui forcément avaient été considérées comme éradiquées vont petit à petit revenir, et on va se retrouver face à des épidémies, notamment des épidémies de rougeole ou ce genre d'épidémies
qui reviennent
et qui peuvent non seulement revenir de principe sur des pathologies qui semblent relativement bénignes, mais qui non, malheureusement, peuvent amener des personnes jusqu'à décéder. Donc je pense que voilà, on est vraiment dans l'archétype où on se dit ok, je veux protéger au maximum mon enfant, donc je ne fais pas ceci, mais malheureusement on oublie qu'en ne protégeant pas son enfant, notamment par la vaccination, on risque de l'autre côté de l'exposer à des pathologies.
La santé, le bien vivre, le mieux vivre, question omniprésente dans nos sociétés. Jonathan Peterschmidt est médecin, il est notre invité jusqu'à 10h sur Phare FM, et on continue avec nos questions.
Oui, exactement. On parle de la santé, de la famille. On parlait des vaccins tout à l'heure, docteur Peterschmidt. J'ai une question à vous poser. Plus personnelle, vous avez des enfants ?
Oui, exactement. Oui, voilà. J'en ai trois.
Voilà, trois. Est-ce que ils sont tout jeunes, je crois bien ?
Oui, trois. Alors pour le coup, 6, 4 et presque 2 ans, on va dire.
Voilà. Donc est-ce qu'ils ont été vaccinés ?
Ils ont été vaccinés, tous
D'accord.
les trois.
Tous les trois.
Voilà, tous les trois. Le plus grand a 6 ans. Vous avez sûrement entendu parler de cette obligation vaccinale des 11 vaccins. Ben voilà, on n'a pas attendu que ce soit obligatoire pour le faire, puisqu'ils ont été, recommandés tous ces 11 vaccins depuis bien longtemps.
Donc, quand on se dit qu'un médecin fait les vaccins pour ses enfants, c'est qu'il n'y a pas de problème du côté des vaccins.
Alors attention, ce serait simplifié à l'excès ça aussi, puisqu'effectivement la vaccination, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le débat est sain et je pense qu'il faut le garder. Mais concrètement, dans la vaccination, il y a beaucoup de rumeurs. Je ne vais pas rentrer dans la théorie du complot, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis pris. Moi, souvent, ce que je vais dire à mes patients, c'est garder votre responsabilité, c'est-à-dire vous décidez. Donc maintenant, ça devient plus compliqué comme c'est devenu obligatoire. Mais lorsque ça ne l'était pas, je disais simplement, voilà, moi je ne ferai pas aux enfants des autres ce que je ne ferai pas à mes propres enfants. Donc concrètement, si je vous propose un vaccin, c'est parce que je le fais à mes enfants. Maintenant derrière, si la liberté de la personne pense, voilà, la personne se dit non, moi je pense que voilà, le médecin n'a pas forcément un parti très objectif, peut-être qu'il s'imagine que derrière voilà, il y a une pression, que ce soit de la sécurité sociale, de l'État, peut-être des laboratoires, etc. Bah voilà, je pense que la personne doit garder finalement la mainmise sur sa propre santé. Donc je crois que le débat doit être ouvert. L'obligation vaccinale peut être discutable parce que d'un point de vue scientifique et médical, effectivement, le vaccin est quelque chose qui n'est plus entre guillemets à débattre au niveau scientifique, clair et net. Mais par contre, à côté de ça, le fait d'avoir une obligation peut justement alimenter peut-être cette sensation de rumeur et le fait d'avoir l'impression, ben voilà, on nous laisse plus le choix.
Et puis surtout que ce sont les laboratoires qui derrière décident pour notre santé. D'ailleurs, ce qui se dit souvent, c'est que on peut plus forcément écouter les médecins parce qu'ils sont souvent visités par les laboratoires qui leur vendent des médicaments, qui promettent peut-être à certains médecins des vacances au soleil ou des choses comme ça ou des primes. Ça existe ça encore aujourd'hui?
Bon, pour taquiner, j'aurais envie de dire si seulement. Non, déjà, effectivement, au niveau légal, les restrictions étaient énormes. Il n'y a plus de cadeaux. Les restaurants, le fait d'avoir des liens avec des laboratoires, etc. Si vous publiez un document scientifique, si vous donnez, voilà, si vous vendez des médicaments, des conseils, des choses comme ça, et que vous avez un lien avec un laboratoire, vous êtes logiquement obligé de le déclarer. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui joue sur la transparence. Et puis après, la culture, effectivement, de la visite médicale, bah, personnellement, moi, je ne reçois plus de visiteurs médicaux. Un peu par principe, parce que j'ai envie de dire que c'est vrai que les informations médicales, scientifiques, on peut les avoir en accès assez simple, même si, avec tout le respect que j'ai vraiment pour mes collègues visiteurs qui font un travail énorme et très compliqué et qui ont eu des informations qui sont effectivement très, très intéressantes, mais logiquement partiales. C'est sûr qu'on peut pas partir du principe que ce qu'il me dit est parole d'évangile.
D'accord.
Dans le contexte. Donc, pour le coup, moi, par rapport au laboratoire, je dirais qu'effectivement, on s'en détache. Mais on peut pas faire de l'angélisme non plus. Je vais rebondir sur un sujet qui reste dans le thème, hein. La vaccination, notamment les adjuvants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Bah, bien sûr que par exemple là-dessus, il y aurait éventuellement un sujet à reprendre. Pourquoi l'aluminium? Pourquoi d'autres types d'adjuvants? Lesquels sont bons? Lesquels sont mauvais? Lesquels sont bons aussi sur le plan peut-être financier? Donc forcément, un laboratoire va produire des centaines de milliers de vaccins, donc il va essayer d'être rentable. On retourne sur la question, bah, notre société, elle veut gagner de l'argent. Donc concrètement, oui, je pense que le vaccin est une chose qui est extrêmement intéressante dans son principe et dans son action. Maintenant, il y aurait peut-être des choses qui seraient à revoir dans son application. Ça, forcément, ça se joue dans des sphères auxquelles ni vous ni moi n'avons accès, malheureusement, mais qui résonnent dans la sphère plutôt financière.
Jonathan Peter Schmidt, qui est médecin, est notre invité sur Phare FM. On parle de la santé. On a abordé déjà pas mal de choses et on va bien sûr aborder le domaine des intolérances. On entend de plus en plus parler, docteur, du sans gluten. Est-ce qu'il faudrait complètement arrêter le gluten, etc., etc. Est-ce qu'on a plus d'intolérance qu'avant?
On a plus de conscience. C'est-à-dire qu'on se rend peut-être plus compte qu'effectivement, certains symptômes qu'on avait peut-être facilement, un peu trop facilement tendance à mettre sur l'ordre peut-être du psychologique, du psychogène, etc., aurait peut-être une origine qui sera une origine beaucoup plus organique. Tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à la question des intolérances, donc est-ce que tout le monde doit arrêter le gluten? Est-ce que tout le monde doit arrêter le lactose? Voilà, j'irai pas jusque-là, je pense pas que tout le monde soit en souffrance par rapport à cela, mais en tout cas ça permet de rebondir sur justement la prise de conscience de comment est-ce qu'on mange. Effectivement, j'ai des patients pour lesquels on s'était dit, bah voilà, ça fait bien longtemps maintenant que j'ai ces douleurs digestives, ça me tire, je me sens pas bien, je suis fatigué, voilà, j'ai mon moral qui est en baisse. Bah voilà, on est arrivé au constat de se dire, bon, on va essayer quelque chose, vous allez arrêter petit à petit de boire du lait, de manger des produits à base de lait pendant une période, on se donne un mois et demi, et puis ensuite on fait le point. Pareil, le gluten dans une seconde phase, et chez de très nombreux, pas toujours, mais chez de très nombreux patients, effectivement, on peut remarquer qu'il y a un mieux vivre, il y a un mieux être juste après ce genre de régime.
Mais c'est pas systématique, c'est ce que vous disiez.
Mais ce n'est pas systématique. Donc est-ce qu'il faut en faire une règle d'or et quelque chose qui doit être élargi à toute la population? J'irai pas jusque-là, mais ce qui est intéressant, c'est que ça remet au centre la question comment est-ce que je mange, qu'est-ce que je suis, qui je suis, c'est ce que je mange aussi.
Et de là, il y a des évolutions du côté scientifique.
Énormément de choses qui bougent, effectivement. Je veux effectivement me recentrer sur des personnes qui sont vraiment dans ce métier-là. Les diététiciens, les nutritionnistes, les micronutritionnistes auxquels on peut effectivement rendre...
Micronutritionniste, ça veut dire quoi exactement?
Effectivement. Alors pour le coup, la micronutrition, je ne me lancerai pas dans la définition précise, je risque d'avoir des coups de fil par la suite. Mais concrètement, disons que la nutrition s'occupera peut-être de ce qu'on mange en tant qu'aliment. Mmh. La micronutrition va aller beaucoup plus précisément dans le nutriment. Qu'est-ce que je mange et qu'est-ce qui compose mon alimentation. Mmh. C'est-à-dire que si on arrive à détailler, par exemple, dans votre bout de pain, qu'est-ce qui, dans le bout de pain, vous fait du mal ou du bien, bah, si on arrive à le ressortir du bout de pain, on pourra se dire que si on en retrouvera dans tel ou tel autre aliment, ça risquera de faire le même effet. Donc, ce sera beaucoup plus fin. Et je pense qu'effectivement, dans le métier de micronutritionniste et nutritionniste, diététicien, et même dans le métier, j'allais dire, de la santé, quand on s'intéresse à la nourriture, quand on s'intéresse au poids, quand on s'intéresse à ces problématiques-là, la sphère qui va être extrêmement intéressante et importante, c'est également et toujours la sphère psychologique.
On va continuer, on va finalement terminer, docteur, avec une question d'un auditeur, celle de Santo qui nous dit, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être une psychose sur la nourriture? Et on en parlait un petit peu tout à l'heure avec entre autres le sans gluten. C'est vrai qu'il y a des pesticides, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais est-ce qu'on n'exagère pas de plus en plus? Parfois, je regarde certaines émissions et à la fin, je ne sais plus quoi manger, à qui faire confiance, ni quel régime adopter. Et je crois, Santo, qu'on est beaucoup à se retrouver dans ce constat. Docteur.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Santo?
Qu'est-ce qu'on fait?
Très très bonne question effectivement et qui nous permet d'aborder la question de la nourriture. Je suis ce que je mange, donc concrètement qu'est-ce que je dois manger pour être quelqu'un de bien ou pour être quelqu'un en bonne santé? Donc la question de la nourriture est centrale. Le fait de manger quelque chose va avoir un impact direct sur votre organisme. On parle souvent de la question des alicaments, comment se soigner par les aliments. On peut aller plus loin en se disant on peut prévenir les maladies justement en ayant une bonne santé. Donc la question de Santo est intéressante justement parce que est-ce qu'on n'exagère pas de plus en plus. Je pense qu'on a surtout pris beaucoup conscience des erreurs qui ont été faites. La question de la grande distribution, les plats qui sont déjà tout préparés, le fait que vous sortiez un sachet au micro-ondes et en deux minutes, vous avez un plat qui est très bon en goût, qui est très, très riche, on va dire, en calories. Et finalement, maintenant, on est plutôt en train de se dire, mais mince alors, est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier un peu tout ça? Donc, j'aimerais essayer de rassurer un petit peu Santo en disant, c'est pas si compliqué, puisque déjà, c'est une affaire de bon sens. Prendre le temps de faire à manger, prendre le temps de prendre des produits frais, des produits qui sont d'une origine si possible locale. Comme ça, vous êtes sûr de qui vous les a vendus, de ce qu'il a mis dessus. Vous pouvez lui demander, est-ce qu'ils sont traités, est-ce qu'ils sont vraiment bio, entre guillemets, puisqu'il faut vérifier aussi, hein, maintenant tout se vend sous le terme de bio. Mais c'est le genre de choses toutes simples qui permettront justement de savoir qu'est-ce que vous avez dans l'assiette, puisque finalement, c'est vous qui l'avez préparé. Pareil, au niveau sociétal, je me rends compte, et on se rendra compte tous, que finalement, il y a pas mal de prises de conscience. Vous avez peut-être vu qu'au niveau des grandes surfaces, de la grande distribution est en train d'être mise en place un système d'étiquetage qui va vous permettre peut-être de choisir plus facilement vos aliments. Est-ce que c'est du A plus vert pour lequel je pourrais éventuellement faire confiance de manière plus ou moins aveugle, soyons toujours prudents, ou éventuellement est-ce que je suis face à un produit qui de toute façon va être trop riche, trop gras, trop salé, trop sucré, donc ça permettra aussi un petit peu de se rediriger. Donc clairement je crois que le bon sens est une bonne chose et si des questions devaient persister dans ce domaine-là, il y a pas mal de personnes qui peuvent vous aider, diététiciens, nutritionnistes, etc. J'en ai déjà parlé un tout petit peu plus tôt.
Alors, on va arriver à la conclusion de cette émission. Déjà, le temps passe très, très vite. Désolé pour toutes les questions qui sont arrivées aussi. Si on peut vous répondre en direct juste après l'émission, on essaiera de le faire. En conclusion, on parle de santé, de la famille. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, Dr. Petechmidt, de cette émission?
Alors, déjà, je vais retenir moi-même que c'est compliqué d'aborder un sujet comme ça en peu de temps. Donc, clairement, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup survolé des thématiques qui sont très, pleines de débats. Et je crois que ce qui est important à retenir, c'est effectivement garder le sens de la simplicité. La maxime qui dit la vérité est au milieu du gué est une maxime que je m'applique très 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 régulièrement puisque finalement on se rend compte qu'en gardant du bon sens, en essayant de prendre un petit peu de recul sur la situation, les bonnes décisions sont souvent relativement faciles à prendre. Maintenant, là où je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, c'est quand des questions se posent sur la santé, sur les soins, sur les médicaments, sur les aliments, sur l'obésité, sur des thèmes de ce type-là. Bien entendu, il est intéressant d'aller consulter son médecin, d'aller discuter en vis-à-vis, de prendre du temps pour poser sa question et d'essayer de l'approfondir en étant d'individu à individu. C'est difficile de dire qu'une chose est bonne pour tout le monde.
Merci beaucoup, docteur Peter Schmidt. En tout cas, vous voyez, on a des invités qu'on reçoit régulièrement qui sont très bons dans leur domaine, Sandrine.
Oui, tout à fait. Et merci en tout cas de votre écoute, de votre fidélité, de vos questions. Nathanaël le disait tout à l'heure, désolé, on n'a pas pu prendre en effet toutes les questions. Jonathan, Peter Schmidt, on vous remercie d'être venu dans cette émission.
C'est un plaisir.
Et même si c'était en effet peut-être survolé pour vous, en tout cas, c'est toujours bon de parler de toutes ces choses. On se retrouve demain.
Oui, et puis on va rappeler que tous ces rendez-vous sont en replay, même cette émission d'une heure sera en replay sur le site internet courant de la matinée, pharefm.com bien entendu, donc dites-le autour de vous.
Merci et bonne écoute, bye bye, à demain 6h pour un prochain Positive Morning.